Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nanit Talani. Presque tout le monde a déjà eu des maux de tête. Il arrive qu'en dépit de toutes vos tentatives pour les soulager, ils persistent, s'accompagnant entre autres de nausées ou vomissements, de la fatigue ou encore d'une sensibilité accrue au bruit, à la lumière et aux odeurs. Vous souffrez certainement d'une migraine. Qu'est-ce qui la déclenche? Comment ne pas la confondre avec d'autres types de céphalées? Que faire pour traiter une migraine?
Une douleur ou qu'elle tienne est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin est d'arriver à poser un diagnostic. Ce n'est pas la majorité, mais certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie.
Quelles sont les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Gallo Diop, le chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Le professeur Amadou Gallo Diop répondra aussi aux questions que vous avez posées sur la page Facebook de VOA Afrique. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, nous vous proposerons un carnet de santé avec Linor Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici venu le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop. Bonsoir professeur Amadou Diop.
Et bonsoir.
Les céphalées, on sait que c'est des sortes de maux de tête, mais est-ce que céphalée veut forcément dire migraine?
Céphalée veut dire mal de tête.
Et ce mal de tête inclut donc la migraine?
Dans les maux de tête qui sont le symptôme de quelque chose, vous avez plusieurs causes.
Quelles sont ces causes?
Parmi ces causes-là, l'une des causes est la migraine, qui est donc une céphalée, un mal de tête qui touche une moitié de la tête. C'est pour ça qu'on parle de migraine. En général, mi, ça veut dire moitié de quelque chose. Et c'est un mal de tête assez spécifique dans le cadre d'une dizaine ou une multitude de causes céphalées ou mal de tête.
Mais qu'est-ce qui peut déclencher une migraine?
Alors là, migraine, comme je vous le dis, siège d'un côté de la tête, mais d'une crise de migraine à une autre, le côté peut changer. On peut avoir cette fois-ci mal à la moitié droite de la tête et une autre crise avoir mal à la moitié gauche de la tête. Alors, les facteurs déclenchants, en général, au bout de quelques années de migraine, chaque malade finit par détecter des facteurs qui déclenchent ce mal de tête. Ils sont très variables et nombreux.
Professeur, que peuvent être ces facteurs?
Je vais vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques, quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique, mais auxquels ils sont sensibles, ou bien lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir qu'en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou telle boisson ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup.
Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs.
On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchants de sa migraine.
Nous avons un auditeur, Léon Mouquet de la RDC, qui veut savoir si les migraines sont neurologiques ou infectieuses. Je pense qu'il veut parler de l'origine.
Oui, là, migraine n'est pas une maladie infectieuse du tout. Les céphalées, dans le cadre des maux de tête en général, peuvent avoir toutes sortes de causes. Certaines causes infectieuses peuvent faire mal à la tête. Le simple fait d'avoir un palud ou une grippe peut engendrer un mal de tête. Quand on a des causes graves comme une méningite, parmi les symptômes, vous avez le mal de tête.
Ça signifie clairement qu'il y a des causes non infectieuses.
Il y a plusieurs causes non infectieuses. Le simple fait d'avoir des fois une sinusite ou des problèmes de vision ou une hypertension artérielle peut engendrer un mal de tête. Quand les gens ont une constipation qui dure longtemps, il y en a chez qui ça déclenche. Les maux de tête sont multiples, mais la migraine n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas dans sa forme neurologique. C'est une maladie neurologique, mais qui ne touche pas l'intérieur du cerveau.
Bon, professeur, la migraine ne touche pas l'intérieur du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe donc?
La migraine, c'est un problème vasculaire, c'est-à-dire que au lieu que les artères qui amènent le sang vers la tête aient un diamètre régulier, brutalement, ils se dilatent ou brutalement, ils se resserrent. Et donc, cette variation, dilatation et resserrement des artères est le primum movens de la crise de migraine déclenchée par des facteurs que je viens de citer. Mais la migraine, dans sa forme classique, mal de tête qui change de côté, qui récidive pendant plusieurs fois dans la vie, n'est pas une maladie due à une infection, alors que dans les maux de tête, vous avez quelquefois des causes infectieuses et plusieurs causes qui ne sont pas des causes infectieuses du tout.
Il y a plusieurs maux de tête. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'il souffre d'une migraine? Quels sont les symptômes qui pourraient alarmer quelqu'un?
Dans le cas d'une migraine classique comme celle qu'on a l'habitude de voir, le mal de tête, je viens de le dire, siège d'un côté du crâne. C'est un mal de tête que les malades vont décrire comme étant pulsatile, c'est-à-dire comme si le sang battait dans une moitié de la tête. Et en général, quand vous les interrogez, on leur demande souvent, est-ce qu'il n'y a pas des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes qui précèdent le déclenchement de la douleur?
Que disent ces patients?
Un bon nombre de malades vont vous dire, dans l'œil du même côté où s'est déclenché ou a siégé la crise de migraine, dans cet œil-là, quelques minutes avant, ils ont l'impression d'avoir vu des points lumineux ou des zigzags qui augmentent de diamètre ou des sortes de flashs ou en tout cas un trouble de la vision. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Ensuite, se déclenche la douleur pulsatile.
Que signifie une douleur pulsatile?
C'est-à-dire comme si ça tape dans la tête. Ensuite, vous avez une impression d'envie de vomir chez certains malades. Chez d'autres malades, vous allez avoir une sorte de mal-être qui peut aller jusqu'au vertige. Et pratiquement tous les malades vont vous dire que le fait qu'il y ait du bruit et de la lumière exagère l'intensité de la douleur. Et ils finissent par savoir que dès la crise de migraine déclenchée, ils doivent chercher un endroit sombre, sans bruit, et ça a contribué tant soit peu à atténuer l'intensité de la douleur. Donc je répète quelques signes annonciateurs. Déclenchement de la douleur dans une moitié de la tête qui ressemble à des battements dans le crâne, suivi ou non d'autres signes accompagnateurs, nausées, vomissements, mal-être, vertige et autres, et intensification de la douleur à cause du bruit et de la lumière.
Nous avons une auditrice, Jeanne Niazalé. Elle dit qu'elle souffre actuellement des migraines. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'en cas de migraine, il faut s'alarmer ou il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison? Faut-il nécessairement consulter?
Une douleur où qu'elle siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de banal, ce qui ne va pas peut être quelque chose de plus grave. Une infection peut se manifester par une douleur, comme une fracture peut se manifester comme une douleur, mais une douleur, un vomissement, une fièvre sont des symptômes qui doivent alerter les individus et les amener à se faire consulter. Donc ça, c'est le premier conseil. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, qu'il soit neurologue ou pas neurologue, c'est à partir de ce symptôme-là d'arriver à poser un diagnostic en vous disant que votre mal de tête est dû à telle cause que je viens de diagnostiquer en vous examinant, ou bien j'ai fini de vous examiner, mais nous avons besoin de faire des examens complémentaires.
Quels sont ces examens supplémentaires qu'un médecin peut demander à faire pour déterminer le diagnostic?
Ça peut être une prise de sang et l'analyse du sang, ça peut être une radio du crâne, ça peut être un scanner, ça peut être un électroencéphalogramme ou d'autres examens plus lourds comme l'IRM, ça peut être tous les moyens techniques médicaux dont on dispose. À la fin de ce processus-là, le médecin doit a priori arriver à un diagnostic et vous dire que votre mal de tête est un mal de tête qui n'est pas grave. Vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas de malformation. Vos yeux, vos oreilles, vos tensions, tout est normal. Donc, il s'agit d'une migraine parce que ça touche une moitié de votre tête. C'est récidivant, c'est pas une maladie grave. Donc, c'est vraiment aller consulter parce que certaines migraines, c'est pas la majorité, mais en tout cas, certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie. Je viens de vous citer des exemples de maladies qui ne sont pas la migraine, mais dans quelques cas, cette migraine, surtout dans les cas, et ça j'insiste là-dessus et je voudrais que les auditeurs prêtent une attention à ce que je vais dire, c'est-à-dire quand vous avez une migraine qui siège d'un côté de la tête, toujours du même et seul côté de la tête, et qui ne change jamais de côté, qui ne bascule pas d'une crise à une autre, à gauche ou à droite, ça c'est une raison fondamentale d'aller se faire consulter et d'aller jusqu'à l'imagerie du crâne et du cerveau, parce que quand une migraine ne change pas de côté, c'est pas forcément dans tous les cas, mais il y a des cas où derrière se cacher une maladie qui va nécessiter une prise en charge assez spécialisée.
Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont les plus exposées aux migraines par rapport à d'autres?
La migraine classique, mal de tête, changeant de côté, pulsatile avec les signes accompagnateurs ou non que je viens de décrire, sur 10 cas de migraine, les 8 voire les 9 vont être des personnes de sexe féminin. Dans un ou deux cas, ça peut être un homme. Alors, quand on parle de migraine pure, sans cause dramatique derrière, et que ça touche une femme, parce que c'est la majorité, si elle remarque bien, la migraine a dû se déclencher vers les premières années de la puberté, donc en 13, 14, 15, 16 ans.
Cette migraine va-t-elle s'arrêter ou continuer?
Va continuer pratiquement toute la vie, de manière intense ou pas intense, fréquente ou pas fréquente, pour finir par complètement disparaître après la ménopause, donc à l'arrêt définitif des règles.
Mais professeur, les enfants peuvent-ils aussi souffrir des migraines?
Il y a des cas où l'âge de début peut être beaucoup plus précoce chez des jeunes enfants. C'est pas fréquent, mais ça arrive, surtout dans des familles où la grand-mère était migraineuse, la mère est migraineuse, etc. Donc, il y a un facteur familial qu'on trouve des fois, ou des femmes chez qui la migraine va se prolonger après la ménopause. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Et donc, le fait que ça démarre vers la puberté pour s'arrêter vers la ménopause fait évoquer parmi les facteurs causaux de migraines un rôle que joueraient les hormones féminines. Mais ce n'est pas exclusif de la femme.
Donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes des migraines, mais les hommes aussi peuvent souffrir des migraines.
Il y a des hommes qui souffrent de véritables migraines comme celles qu'on a décrites chez la femme. Il existe par contre chez les hommes quelque chose qui est dans le même groupe de douleurs, mais qui ne va pas avoir un siège prépondérant au niveau du crâne, donc de la tête, mais qui va descendre un peu plus bas vers le pourtour de l'œil, une partie du visage, et qu'on appelle algie vasculaire de la face. Quand vous avez 10 algies vasculaires de la face, à l'inverse de ce que je viens de dire pour la migraine, les 8 ou 9 cas vont être chez les hommes, et il n'y aura que 1 ou 2 cas chez la face.
L'algie vasculaire cérébrale, qui est une sorte de mal de tête, donc elle atteint plus les hommes que les femmes.
Il se trouve que l'algie vasculaire de l'homme et la migraine partagent à peu près les mêmes phénomènes qui les causent, passant in fine par une instabilité du calibre des artères et perturbant la régularité de la perfusion cerveau, du crâne et autres, mais sans en faire une maladie neurovasculaire comme celle qu'on trouve dans les accidents vasculaires cérébraux. Ça n'a absolument rien à voir, pour rassurer vos auditeurs.
Vous venez de suivre notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop sur les migraines. Voici à présent le moment de suivre Carnet de santé avec Lino Moubou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, une série de vagues de chaleur sans précédent a saisi le globe. Nous examinons son impact sur la santé. Et le docteur Théophilus Wangata, expert en santé publique, partage quelques conseils pour mieux se protéger des canicules. Ensuite, que faites-vous pour rester au frais et hydraté pendant une canicule? Nous avons vos réactions. Enfin, des efforts sont en cours au Kenya pour diminuer la pollution de l'air pendant la cuisine. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Une série de vagues de chaleur sans précédent a saisi le globe. De l'Europe à l'Amérique du Nord, de l'Asie à l'Australie, les températures ont augmenté à des niveaux inhabituels. Plus de 1300 personnes sont décédées récemment durant le pèlerinage annuel du Hajj en Arabie Saoudite, alors que les pèlerins faisaient face à des températures extrêmement élevées, selon le ministère saoudien de la santé. Un couple du Maryland, originaire de Sierra Leone, fait partie de ceux qui ont perdu la vie durant le Hajj. Le moniteur de tendance des températures mondiales révèle qu'elles ont globalement augmenté de près de 2,3 degrés Fahrenheit par rapport au niveau pré-industriel. Le changement climatique rend les vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus longues. L'Amérique du Nord connaît sa part de vagues de chaleur, alors que des endroits traditionnellement plus frais, comme Seattle ou Washington, connaissent des jours consécutifs de température à trois chiffres. Cette année, une vague de chaleur meurtrière a frappé l'Afrique de l'Ouest, submergeant les hôpitaux dans certaines régions. Les experts médicaux disent que l'augmentation des températures peut entraîner plusieurs problèmes de santé et les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants sont plus à risque. La déshydratation peut évoluer en état de choc, provoquant l'arrêt des organes par manque de sang, d'oxygène et de nutriments, ce qui peut entraîner des convulsions et la mort. La chaleur affecte également le cerveau et peut provoquer une confusion. Le plus grand danger de la chaleur, selon les experts, c'est la pression exercée sur le cœur, en particulier chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Le médecin généraliste Théophilus Wangata est directeur général de Precise Healthcare à Nairobi, au Kenya. Il explique l'impact des chaleurs extrêmes sur la santé et partage des conseils pour rester en bonne santé pendant les vagues de chaleur.
Une canicule est un temps anormalement chaud et cela fait partie des défis auxquels nous sommes confrontés à cause du réchauffement climatique et le risque qui y est associé et qu'il peut provoquer une déshydratation sévère pouvant même entraîner la mort. Les personnes les plus vulnérables aux maladies liées à la chaleur sont les personnes vulnérables de notre société, c'est-à-dire principalement les personnes âgées et les enfants. Et puis les gens qui s'exposent au milieu extérieur, vous pouvez être jeune, mais si vous êtes dehors une bonne partie du temps pendant une vague de chaleur, vous seriez plus vulnérable lors d'un coup de chaleur. Les gens présentent des symptômes différents et parmi les symptômes courants et précoces figure la soif excessive, avoir un mal de tête sans raison claire, des nausées, de la transpiration et il s'agit également d'une transpiration anormalement élevée et d'une température corporelle élevée. Et avec un jeûne excessif, cela peut entraîner un niveau tel qu'il conduit à une déshydratation sévère. Le moyen le plus efficace est de rester hydraté pendant une canicule, boire suffisamment ou plutôt beaucoup de liquide. Vous devez donc continuer à boire de l'eau fraîche toutes les 15 ou 20 minutes environ. Évitez la consommation d'alcool parce que l'alcool déshydrate davantage le corps. Restez à l'intérieur en vous assurant d'être dans un endroit plus frais parce que la plupart des vagues de chaleur affectent les personnes qui sont à l'extérieur et utilisez quelque chose pour vous couvrir lorsque vous sortez comme des parapluies. Le conseil que je donnerai aux téléspectateurs pendant une canicule est premièrement de veiller à rester à l'intérieur autant que possible. Assurez-vous de garder votre travail principalement à l'intérieur et si vous devez sortir, assurez-vous d'emporter votre bouteille d'eau fraîche avec vous afin de continuer à boire de l'eau tout le temps. Et assurez-vous également que tous les enfants sont en sécurité en restant à l'intérieur tout le temps. La majorité des gouvernements pendant les vagues de chaleur réduisent également l'exposition en fermant les écoles ou en réduisant les heures de travail des mères. Lorsqu'elles allaitent pendant les vagues de chaleur, elles doivent s'assurer qu'elles ont une hydratation adéquate afin de pouvoir continuer à allaiter leurs enfants. Ils doivent constamment boire de l'eau. Et il existe également d'autres liquides que vous pouvez prendre. éviter les sodas parce qu'ils pourraient ne pas fournir l'hydratation adéquate nécessaire. Et si la mère a des vertiges ou des maux de tête, elle doit savoir qu'elle est déjà déshydratée. Les mères doivent boire beaucoup d'eau afin d'avoir une production de lait suffisante pour leurs enfants.
Milk production for the child.
Comment restez-vous hydraté pendant une vague de chaleur et que faites-vous pour rester au frais en cas de coupure d'électricité? Voici quelques réactions depuis Abuja au Nigeria.
Je bois de l'eau régulièrement, je ne reste même pas 10 minutes sans prendre de l'eau. C'est juste que c'est dommage que nous soyons venus chercher quelque chose. Sinon, j'ai ma bouteille d'eau avec moi. J'emporte donc toujours mon eau en bouteille partout où je vais et elle doit être fraîche à cause du soleil.
J'ai toujours de l'eau dans ma bouteille et je me déplace avec. Donc, même si je quitte la maison, si je sais que je ne pourrai peut-être pas aller chercher de l'eau dehors, je vais juste quitter la maison avec ma bouteille. C'est pourquoi j'aime aller chercher de l'eau avec cette bouteille de recyclage. Je vais partout avec.
En buvant de l'eau constamment, au moins 4 litres. Par jour.
On parle d'hydratation, ouais. Si tu me vois avec une bouteille d'eau, la plupart du temps, parce que je savais que je sortais de la maison, donc j'ai dû arriver ici avant d'aller chercher mon eau.
Bain régulier, surtout en cette période de chaleur. Donc si je ne suis pas dehors, je devrais prendre mon bain 5 à 10 fois aujourd'hui. Alors je prends régulièrement des bains. À chaque fois, c'est juste pour que mon corps soit frais.
Ces derniers temps, je bois beaucoup d'eau. Avant, je prenais beaucoup de boissons gazeuses. Mais récemment, j'ai commencé à m'hydrater avec plus d'eau.
J'adore le Coca-Cola quand il est frais. Ça me garde hydraté.
À la maison, si je n'ai pas besoin de prendre mon bain pour me rafraîchir, je vais juste faire une courte promenade dans des endroits où nous avons des arbres, parce que les arbres sont une source naturelle de fraîcheur. Et c'est ce que je fais la plupart du temps.
Comme vous pouvez le voir, je porte mes lunettes à cause du soleil brûlant. J'utilise donc des lunettes et parfois mon parapluie, donc ça me protège du soleil brûlant.
For the cool part of it, when I'm at
ce qui est intéressant, c'est que quand je sors généralement de chez moi ou du bureau, je reste à l'ombre. Il suffit de prendre l'air dans un endroit frais ou dans le couloir.
The environment or the corridor, just to take fresh air.
Plus il fait chaud, plus on boit de l'eau. Mais saviez-vous que certains aliments peuvent aussi vous rafraîchir? En voici quelques-uns. Vous avez peut-être entendu l'expression « frais comme un concombre ». Selon les experts en nutrition, les concombres sont composés à 96% d'eau. Ils peuvent hydrater le corps et abaisser la température corporelle. Grignotez-les en salade, dans votre recette préférée, ou mixez-les en jus avec du gingembre et un peu de citron. L'eau de coco est remplie d'électrolytes qui aident à garder le corps hydraté et frais. La boisson énergisante aide à lutter contre la chaleur pendant une saison chaude tout en gardant une personne hydratée et énergique tout au long de la journée. La mangue est un fruit sucré et juteux avec plusieurs avantages pour la santé qui peut également réduire la chaleur corporelle. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, la laitue et le chou sont riches en nutriments, en calcium et procurent un bon effet rafraîchissant sur le corps. Les pastèques sont juteuses et pleines de nutriments dont le corps a besoin. Non seulement elles hydratent, mais elles renforcent le corps avec des nutriments riches comme la vitamine B, le magnésium, le potassium et les fibres. Les maladies respiratoires affectent la santé des millions de personnes au Kenya. Cuisiner avec de la biomasse, du bois de chauffage est une grande partie du problème, selon les observateurs. Et les données gouvernementales montrent qu'un nombre croissant des Kenyans le font. Les options de cuisson propres, abordables, ne sont pas accessibles pour beaucoup de personnes.
Jane Mutoni ramasse du bois pour allumer un feu dans sa cuisine faite de tôle. Bientôt, le toit, les murs et les piliers en bois seront couverts de suie. Alors qu'elle souffle sur la flamme pour faire du thé, cette femme de 65 ans est engloutie par la fumée. J'ai toujours utilisé du bois de chauffage et je me lève tous les matins pour aller en chercher. Cependant, la fumée du bois de chauffage me fait tousser pendant de longues périodes et me gêne pour respirer. Le gaz GPL est très cher et je n'ai pas les moyens de me l'offrir. Selon les autorités, les troubles respiratoires ont été les maladies les plus répandues au Kenya au cours des 6 dernières années, avec 19,6 millions de cas signalés dans l'étude la plus récente publiée cette année. Selon Evans Amukoye, scientifique au Centre de recherche sur les maladies respiratoires de l'Institut de recherche médicale du Kenya, la biomasse, telle que le bois de chauffage, est le principal facteur contribuant à ces maladies.
Il ne s'agit pas seulement du monoxyde de carbone, mais l'un des plus gros problèmes est celui de particules. Les particules sont celles que nous appelons habituellement PM2.5 et qui sont associées à la pneumonie, à l'asthme, etc. L'électricité serait la solution la plus propre, mais elle est un peu chère.
Les données du ministère kényan de la Santé montrent que la bronchopneumopathie chronique obstructive est responsable de 1,7% des décès dans le pays. Les familles des quartiers informels et des zones rurales sont les plus touchées. La plupart d'entre elles utilisent du bois de chauffage ou des combustibles fossiles pour cuisiner. Burn Manufacturing affirme que son fourneau Jikokoa peut permettre à un ménage d'économiser jusqu'à 150 à 200 dollars par an en frais de combustible. Olivier Mosberger, directeur des opérations chez Burn Manufacturing, explique le fonctionnement de l'un de ses fourneaux.
La raison pour laquelle ce fourneau est le plus efficace au monde, c'est parce qu'il fonctionne avec un appel d'air naturel et qu'il est refroidi à l'air, donc sans isolation. C'est dû à la façon dont il a été conçu. Il a été optimisé au cours d'une dizaine d'années des recherches et des développements pour avoir une combustion secondaire qui s'est produite à l'intérieur de cette colonne montante. Au fur et à mesure que le bois est introduit, il y a des entrées d'air qui permettent de réguler l'air entrant par les bas du fourneau et à l'intérieur, il y a aussi des trous d'air supplémentaires qui assurent la combustion secondaire. Les avantages sont donc l'augmentation de la température et la réduction des émissions.
Mercy Letting, une cuisinière de Nairobi, utilisait du charbon de bois pour préparer les repas des clients. Au fil du temps, sa santé a commencé à en pâtir. Elle a acheté un fourneau et constaté une amélioration de sa santé et celle de son porte-monnaie.
En utilisant ces fourneaux, je peux désormais utiliser qu'un sac de charbon de bois pendant 2 mois, contrairement à ce qui se passait auparavant. Je peux ainsi économiser 4500 shillings. En ce qui concerne ma santé, je ne vais plus aussi souvent à l'hôpital et je peux travailler tout au long de la journée. Cela se traduit par une augmentation des bénéfices.
Dans le monde, 2,3 milliards de personnes utilisent des feux ouverts ou des combustibles fossiles tels que le bois, le charbon de bois et le kérosène pour cuisiner. En Afrique subsaharienne, plus de 900 millions de personnes dépendent de ces combustibles. L'Agence internationale de l'énergie estime que les femmes et les enfants représentent 60% des décès liés à la pollution de l'air en Afrique. Un investissement annuel de 8 milliards de dollars est nécessaire dans les fourneaux de cuisine propres, les équipements et les infrastructures pour résoudre cette crise.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le professeur Amadou Gallo Diop sur les migraines. Le professeur Gallo Diop est chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Linor Moudou sur le suicide. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. À la réalisation, Zainab Abderrahman. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Salut! Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel. votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé et votre avenir, c'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur VOA Afrique.